Est-ce la bonne décision ? Quelque chose ? Est-ce trop tard pour moi ? Prenez vos décisions d'investissement avec le soutien de Clarity AI. Gérez votre portefeuille tout en lui assurant une croissance durable grâce à l'association d'une IA puissante et d'une grande expérience de l'industrie. Notre technologie augmente l'efficacité des processus réglementaires, y compris ceux liés à l'article 29 de la loi Énergie-Climat. Réduisez les risques et atteignez vos objectifs de durabilité en vous basant sur des faits vérifiés et des méthodologies transparentes. Clarity AI, la technologie au service des décisions humaines. Rendez-vous sur clarity.ai et passez à l'action dès aujourd'hui.
Débat et controverse sur BFM Business. Nicolas Dose accueille les experts.
Avec Jérôme Dédéyur, associé de toutsurmesfinances.com et président de Mon Partenaire Patrimoine. François Eckhall, fondateur de Fipeco.fr. Gilles Raveau, maître de conférence à l'Institut d'études européennes de Paris 8 Saint-Denis, qu'on peut lire régulièrement dans Charlie Hebdo, et notamment ce numéro du mois de mars, début mars, où il nous raconte l'histoire de Météo France, la casse de Météo France. On recommence pas. On a un peu rhabillé les mutuelles pour l'hiver pendant la pause. François, c'est aberrant le système de mutuelles en France ?
Bah, c'est un système qui est assurance privée, assurance complémentaire.
Assurance complémentaire.
Il y a des mutuelles plus aussi des assureurs privés, enfin plus des capitalistes, voilà, qui ne sont pas mutualistes. C'est inédit en Europe. On est le seul pays où on a un poids aussi important des assurances maladies complémentaires et où on a en fait deux assureurs qui font la même chose, qui remboursent, l'un rembourse 70% et puis l'autre rembourse les 30% restants sur la même chose exactement. Qui est des assureurs qui remboursent pas la même chose, une partie du marché par exemple. Enfin, c'est aussi une hypothèse qui est parfois envisagée, c'est que par exemple l'assurance maladie laisse aux mutuelles tout ce qui est optique et dentaire, pour lequel l'assurance maladie ne rembourse quasiment rien. Là, ça serait plus clair. Il y en a un qui serait responsable de l'optique et du dentaire, et puis l'autre qui serait responsable de tout le reste. Mais on est dans un système où les deux font la même chose et rajoutent des coûts de gestion. Les mutuelles, les coûts de gestion des complémentaires, c'est 7 milliards. L'assurance maladie, la CNAM, c'est 6 milliards. Bon.
Si. C'est une très importante, je dis. Alors je dis, parce qu'effectivement, c'est une très importante perte de pouvoir d'achat pour les habitants de ce pays. Encore une fois.
Les mutuelles. Les mutuelles,
c'est absolument, ils le savent tous, ils le disent, personne ne le dit, mais tout le monde le sait. On devrait, à la fin de chaque année, recevoir un bilan de ce que nous a coûté notre mutuelle et ce que nous a remboursé. Les gens verraient qu'ils perdent de l'argent. Je rappelle d'autre part que même si je veux bien être gentil et dire que la productivité est supérieure dans les mutuelles, les salaires, ils sont très élevés et donc le coût ramené est plus élevé, évidemment, très très fortement dans les mutuelles. Il y a plein de rapports de la CNAM, coût de 2 et ils ne rendent sur la partie remboursement pur, enfin les complémentaires santé sur la partie remboursement pur, comme l'a très bien expliqué François Eckhall, ne nous rendent aucun service, ils ne servent strictement à rien. Et comme l'avait par ailleurs expliqué Jean-Marc Vittori une fois ici aussi, il y a un effet aussi macroéconomique, c'est qu'en fait les mutuelles empêchent la sécurité sociale de bien négocier le prix à la baisse des médicaments, parce que si les remboursements sécu baissent, les mutuelles augmentent, elles, leur remboursement sur les médicaments et donc les prélèvements, etc.
Je vous écoute.
Tout ça, c'est archi connu, mais par contre, il y a des gros intérêts derrière. Les mutuelles font des publicités tout le temps. Et donc, forcément, la critique, elle est portée par des gens qui ne sont pas payés.
Je vous écoute, je ne suis pas assez mûr sur ce sujet pour avoir un avis définitif. Je ne vous le cache pas, c'est un sujet compliqué. Vous le connaissez mieux que moi, François et Gilles. Jérôme Dédéan.
On ne peut pas complètement laisser dire ça. D'abord, je voudrais juste dire que je suis comme ça, a priori. Et intuitivement, pas tout à fait sûr que si on mettait l'intégralité de la prestation du côté de la Sécu, ce serait fait de façon plus efficace et plus productive qu'avec les complémentaires santé. C'est la première chose. Deuxièmement, dans le métier des complémentaires santé, il y a énormément de choses à très forte valeur ajoutée en termes de qualité de service, en termes de devis préalable, de maîtrise de la dépense. Donc je pense qu'elles sont un très très bon, on va dire, atout et ou partenaire de la dépense sociale ou de maîtrise de la dépense sociale à beaucoup d'endroits. Le troisième truc, c'est qu'il faut voir d'où on vient. Je rappelle qu'on n'est pas dans un système bismarckien en France. On a créé, en fait, à l'origine, la protection sociale, elle naît dans les entreprises d'initiatives patronales, socio-chrétiennes.
Privées, absolument.
Voilà, mais chrétiens sociaux, etc.
Absolument.
Et que,
des travailleurs aussi.
Voilà. Et que,
c'est dans le monde de l'entreprise.
C'est ensuite que cette initiative privée, qui vient de patrons chrétiens sociaux, est reprise en main par l'État ou réintégrée par l'État. Et donc, ce qui nous reste, c'est un niveau de protection supplémentaire par rapport à ce qui fait consensus au niveau national sur les comptes de la Sécu, et qui est organisé par le secteur privé, et plutôt pas mal, de ce que je peux en juger.
Bon, François Eckhall, ce chiffre, et après on avance, on va essayer de faire un peu de CETA, un peu de politique de PAC verte, et puis un peu de fast fashion.
L'URSSAF nous dit on a identifié 1,2 milliard de luttes. Enfin, la lutte contre le travail noir nous a permis d'identifier 1,2 milliard, mais on a fait rentrer 80 millions. C'est désespérant, en fait. Je dis ça parce que régulièrement, quand vous avez notamment des programmes politiques qui coûtent très cher et qu'on pose la question aux candidats, mais comment vous allez financer ça ? Oh, j'irai chercher l'argent de la fraude. Bon, aller chercher l'argent de la fraude, il y a un moment, d'abord il faut le trouver, et puis il faut réussir à le faire rentrer. Et c'est pas si simple.
C'est pas si simple. On a le même problème, d'ailleurs, en matière de fraude fiscale. Hein. En matière de fraude fiscale, les redressements notifiés, c'est une quinzaine de milliards d'euros par an, mais les encaissements à la suite de redressement, c'est une dizaine de milliards. Donc il y a une perte d'un tiers à peu près de ce qui est redressé. Il y a des causes diverses à ça. Il y a des causes qui relèvent, je dirais, de la grande fraude, c'est-à-dire des fraudes profondes, des sociétés qui exercent une activité illégale, que ce soit en faisant travailler au noir ou en matière de TVA, des mécanismes complexes, on appelle les carousels de TVA. Donc voilà, c'est une fraude caractérisée. Et qui, dès qu'ils voient apparaître une notification de redressement, disparaissent.
C'est exactement ça.
Se font liquider judiciairement, etc. Et donc, on ne récupère rien parce qu'il n'y a plus rien. Voilà. Donc, c'est pas facile à gérer. La seule solution pour l'administration, c'est d'aller beaucoup plus vite. Mais aller beaucoup plus vite, c'est pas simple parce que vous avez des procédures à respecter, etc. Et donc, c'est forcément très long. L'administration court après ces sociétés qui disparaissent avant qu'elles ne les aient rattrapées. Bon. La deuxième raison aussi, c'est que entre la notification d'un redressement et puis la mise en recouvrement de ce redressement, le contribuable, il a la possibilité de s'opposer, de contester. Parce que, et l'administration n'a pas toujours raison. Ce qu'on voit aussi en matière fiscale, c'est qu'au cours de ces dernières années, il y a eu des contentieux fiscaux très très importants, un peu systématiques sur un certain nombre de mesures fiscales, qui se sont traduits en justice par des pertes considérable pour l'État, parce que l'administration, en tout cas aux yeux du juge, l'administration avait tort. Et ça, c'est lié à la complexité du système, et c'est vrai aussi en matière sociale. On est dans un système fiscal tellement compliqué que l'interprétation de la loi fiscale, objectivement, est très compliquée. Et objectivement, il y a des gens qui peuvent, et d'où d'ailleurs certains chiffres sur le montant de la fraude à l'impôt, du manque à gagner en matière fiscale, qui représente certainement plusieurs dizaines de milliards d'euros. Parfois tout simplement parce qu'il y a des gens qui ne savent pas quelle est la bonne interprétation à donner, et d'ailleurs l'administration non plus ne sait pas. On est obligé de, finalement, le seul qui dit la vérité in fine, c'est le juge, mais le juge parfois il se contredit lui-même, on ne sait pas très bien comment il faut interpréter ce que dit le juge. Donc on a un problème de complexité de la législation fiscale et sociale qui aboutit à ce genre de choses.
Jérôme Dédéian,
je vous ai juste dit que quand le juge dit que l'État ou l'administration fiscale qui contestait le comportement d'un contribuable, que ce soit une entreprise ou un particulier, déjuge l'administration, c'est pas un manque à gagner pour l'État, c'est juste ce qu'on appelle un état de droit qui respecte les droits du citoyen et les droits. Bon, donc ça, c'est un point important. La deuxième chose, c'est que fraude fiscale, 15 milliards identifiés, 10 milliards recouvrés, et il y a effectivement des gens qui organisent, des entreprises qui organisent leur insolvabilité. Voilà. Fraude sociale, 80 millions recouvrés pour 1,2 milliard identifiés.
C'est travail noir.
Là, on a quand même un ordre de grandeur qui questionne, parce que ça veut dire qu'on pourrait faire mieux, peut-être pas les deux tiers qu'on obtient en matière fiscale, parce qu'on est en face d'un terrain qui est par nature insolvable. Vous avez des gens qui se font payer au black, ils dépensent l'argent, faudrait aller chercher la liasse de bifton qu'ils ont planqué sous leur matelas du fruit de leur travail au noir, de leur travail illégal. Ça, c'est évidemment compliqué, mais on doit quand même pouvoir faire mieux entre 1,2 milliard identifiés et 80 millions recouvrés, et là, je pense que ça pourrait faire l'objet d'un petit chantier. On doit pouvoir trouver des techniques, je ne sais pas moi, en numérisant des choses, en analysant mieux les données, en identifiant mieux les gens. Enfin, je ne suis pas pour Big Brother, mais on doit pouvoir faire un peu mieux.
On passe. J'ai pensé à vous avec cette info. Alors, on va essayer d'avancer, mais hier, Bruxelles a nommé l'ensemble de ces reculs en matière de contraintes et d'obligations vertes pour calmer la colère des paysans partout en Europe. Ça s'appelle des BCAE.
des bonnes conditions agricoles et environnementales. Il y en avait toute une série qui ont été qui sont entrées en vigueur en janvier 2023. Et bien voilà, donc fini l'obligation de mise en jachère de 4% des terres arables. C'était la BCE, la BCAE 8, la BCAE 7, fini l'obligation de rotation des cultures, la BCAE 6, changement radical du calendrier qui interdit les sols nus, les sols où il n'y a rien où, et même pas de résidus végétaux pour limiter l'érosion des sols. Maintenant, chaque État fera un peu ce qu'il veut. Et on accorde des dérogations importantes, notamment en termes de risques financiers, aux exploitations de moins de 10 hectares. Ça concerne beaucoup la France et la Pologne, où il y a beaucoup de petites exploitations. C'est la contre-révolution verte, Gilles Ravot, où il faut absolument trouver une sortie face à une colère agricole qui a gagné toute l'Europe et qui ne faiblit pas ou peu.
Alors, il y a beaucoup d'aspects. On peut prendre la question agricole par plusieurs aspects. Il y en a une que j'ai pas développée, qui est la question du libre-échange, dont on parlera peut-être après avec justement le CETA. Parce que je vais faire une réflexion plus fondamentale.
Vous avez parlé... c'est pas le libre-échange. On est vraiment sur des obligations environnementales.
Oui, mais là, une des difficultés des agriculteurs européens vient des accords de libre-échange. Bon. Je voudrais revenir sur ce que vous avez dit tout à l'heure sur la pédagogie. C'est vrai que c'est quand même vraiment fatigant. Et bon, vous connaissez mon inquiétude. Je suis vraiment très très inquiet du manque de courage et d'honnêteté intellectuelle un peu générale du gouvernement, mais pas seulement, aussi de beaucoup de mes collègues économistes et aussi de certains journalistes. Parce que même François Langlais l'a dit, donc c'est pour dire à quel point c'est quand même facile à comprendre. La transition écologique, c'est une chute de productivité. C'est une chute de productivité qui est au mieux temporaire, voire définitive. Or, toutes nos économies reposent sur les gains de productivité. Donc, c'est un changement complet de système économique. Voilà. Jean Pisani-Ferry l'a très bien dit dans son rapport. Tout le monde qui est honnête le sait. Donc, quand on arrête de se bercer sur la transition écologique comme si...
Mais là, vous vous éloignez beaucoup de mon sujet.
Pas du tout, j'y viens tout de suite.
Comme si le verre sera cher.
Non mais c'est pas. Pardon. Excusez-moi, je suis un peu excité ce matin. Ça m'a mis en feu là la lecture des rapports de la Cour des comptes. Mais mais la chute de la productivité, c'est pas le verre sera cher, c'est tout sera cher.
Oui, je suis d'accord.
Et le salaire réel baisse.
Baisse. Oui.
Non mais ça veut dire que à système économique inchangé, c'est impossible. C'est pas que c'est difficile, c'est pas que c'est compliqué, c'est impossible. Les gens refusent. Et comme malheureusement nous vivons encore un petit peu en démocratie, les élus sont obligés d'écouter les gens. Donc ce que je vous dis, c'est que la chute de la productivité, ça fait, et par ailleurs Jean-Baptiste Fressoz, dans un livre absolument nécessaire qu'il faut lire, nous explique qu'il n'y a jamais eu de transition énergétique au cours de l'histoire de l'humanité. Il donne cet exemple, chapitre fascinant sur la révolution industrielle. On a tous appris à l'école que la révolution industrielle, c'est le remplacement du bois par le charbon. Et ben Fressoz, il y a tout un courant maintenant d'historiens de l'écologie, nous montre qu'au cours de la révolution industrielle, la consommation de bois a explosé. C'est-à-dire que plus de charbon et plus de bois, les énergies se cumulent toujours. Donc si vous mettez en place l'aspect matériel de la vie, le cumul de l'énergie, il n'y a jamais eu de transition énergétique avant. Ce n'est pas dans nos sociétés basées sur la consommation qu'elle aura lieu. Et par ailleurs, j'ai posté, lisez, j'en supplie, la préface de Jean Fourastier sur les 30 Glorieuses, le monsieur qui a inventé l'expression. Je l'ai posté sur mon blog sur Alternative Économique, lisez ça. Tout notre qualité de vie dans les pays riches, toutes nos vies, nos loisirs, résultent des incroyables gains de productivité qui ont été faits pendant 30 ans. Or, comme Jean Covici et d'autres le démontrent, ces gains de productivité résultent de l'exploitation des énergies fossiles qui est maintenant plus possible. Et donc, tout se casse la gueule très profondément et de façon logique, les agriculteurs sont les premiers à le voir. Et donc voilà, on est face à un problème gigantesque et tant que ce ne sera pas dit, assumé par nos gouvernements, on ne pourra rien faire. Ce n'est pas juste tel truc va être plus cher, etc. C'est que tout notre mode de vie, la base matérielle de nos modes de vie, est en train de s'effondrer.
Vous m'expliquez qu'il n'y a pas de solution.
Il n'y a pas de solution dans le système actuel, il n'y a pas de solution tant qu'on n'a pas reconnu le problème.
Mais les gens ne veulent pas.
Mais les gens ne veulent pas parce qu'on leur ment.
Mais comment ça on leur ment?
Mais quel gouvernement? Est-ce que le ministre nous dit que la transition écologique, c'est une chute de la productivité?
Mais qu'est-ce que ça va changer si on explique ça?
Ça change tout parce qu'ils voient bien que d'un coup, ça devient logique. C'est-à-dire que ce qu'ils vivent, ils disent « Ah bah oui, je comprends. » Et après, on fait des choix.
Vous pensez que si on dit ça, les gens vont comprendre?
Bah, c'est mon métier.
Ouais, regardez, prenez l'exemple du Canada. Ils ont
Colère populaire devant le fait d'aller surtaxer le mazout de chauffage. Ah, on met un moratoire pendant 3 ans sur la taxe carbone sur le mazout parce que ça passe pas. Colère des agriculteurs, on arrête l'idée d'aller tailler la niche fiscale du gazole non routier parce que ça passe pas et on va continuer donc à subventionner une énergie fossile. Et tout est comme ça.
Si on considère
alors, Jérôme Dédéian.
Si on considère que la transition est une innovation, qu'on la prend sous l'angle de l'innovation, pour qu'une innovation prenne, il faut pas changer l'usage. Ou en tout cas, il faut changer un minimum de dimension. Quand on a inventé l'ampoule à basse consommation, on n'a pas changé la douille, on n'a pas changé la douille à vis ou la douille à baïonnette, et donc comme ça, on n'était pas obligé de changer le parc de lampes, et on pouvait toujours acheter ces ampoules dans les mêmes circuits de distribution qu'avant. Or, c'est une innovation majeure. C'est exactement la même chose pour la transition, elle ne sera acceptable que si elle ne modifie pas, au minimum, les comportements et la vie quotidienne des gens. Voilà. Donc c'est ça qu'il faut viser. Après, je suis pas tout à fait d'accord sur le fait qu'on ne peut pas continuer à obtenir des gains de productivité, mais il faut prendre le sujet autrement, et notamment en matière agricole. Je suis tout à fait d'accord que c'est normal que ce soit les agriculteurs qui prennent ça dans la face en premier. C'est d'ailleurs, c'est pas pour rien que ça s'appelle le secteur primaire. C'est celui qui, quand même, est à la base de la capacité de l'homme à survivre. Donc, voilà. Le sujet est un sujet de taille des exploitations, est un sujet de déploiement technologique qui accompagnant la transition. Or, on sait très bien que le manque de productivité de notre agriculture, elle est liée au fait qu'on a encore trop de morcellement d'exploitation. Il y a des pays
c'est
comme la Pologne ou la France.
Française.
C'est venu du fait que, comme on n'avait pas, comme en Angleterre, la primogéniture mâle sur l'héritage, eh ben on a morcelé les exploitations c'est historique, du fait des décès avec partage dans la fratrie. Et c'est comme ça qu'on se retrouve avec une multitude de petites exploitations. Les gros, ça va pour eux, merci. Les petits, c'est compliqué. Et donc, il y a un sujet de plan stratégique, de regroupement des exploitations, d'investissement dans des technologies pour les rendre plus productives. Et je pense qu'on peut réussir à faire une transition dans l'agriculture en même temps qu'on travaille avec de la productivité supplémentaire ou en tout cas un rattrapage déficit de productivité que la transition entraîne.
Il y a un auditeur qui m'écrit « Discours de vérité de Gilles Raveau, les gens sont capables d'entendre ». Je pense, c'est là où je me pose des questions. François Eyckel, par rapport à ce qu'on vient de se dire
sur l'agriculture.
Est-ce que moi, les reculades vertes là, de choix politiques, je peux vous en faire dans tous les pays, dans tous les domaines, c'est systématique.
Parce que ça passe pas.
Parce que ça passe pas.
Sur agriculture et environnement, je pense en effet, ça rejoint assez largement là, ce qui vient d'être dit, en schématisant, il y a deux agricultures en France. Il y a une agriculture très productive, très efficace, qui exporte. On a encore un excédent agricole très facilement, qui peut s'aligner sur des prix mondiaux très bas. C'est en particulier les grandes cultures et la viticulture. Et puis à côté de ça, il y a une agriculture morcelée, en effet, pas productive, l'élevage de montagne. Et donc, en fait, l'agriculture efficace, elle peut vivre dans le commerce mondial, le CETA ne gêne pas du tout, au contraire, elle peut exporter plus, etc. Il n'y a aucun problème. Exactement. Là, en revanche, l'agriculture, je dirais, familiale, petite agriculture, etc., elle ne peut pas vivre avec les prix tels qu'ils sont actuellement. Donc, deux solutions. Soit on ferme toutes les frontières, on remonte les prix, frontières en Europe, bien sûr, on remonte les prix, les consommateurs payent un prix très important. C'est ce qu'on faisait au début de la politique agricole commune.
On répète la PAC.
On fixait des rames, mais ça n'a pas marché, etc. Soit on admet ce qui est l'orientation actuelle, on admet que cette agriculture-là, on l'aide à survivre avec des aides directes. C'est ce qu'on fait. La PAC actuelle leur verse des aides. Sans ces aides-là, la plupart de ces petites exploitations auraient fermé depuis longtemps. Mais ces aides, on est obligé quand même de les accorder avec des contreparties. Et la contrepartie, en fait, c'est l'idée que cette petite agriculture, on la maintient parce que elle permet d'entretenir les paysages, elle permet d'avoir un effet favorable sur l'environnement, etc. Et donc la contrepartie de ces aides qui permettent à l'agriculture de montagne de survivre, c'est qu'elle entretient la montagne. Et c'est là toute la difficulté. C'est qu'on ne peut pas se contenter de dire aux agriculteurs, bon d'accord, vous êtes là, donc on vous aide parce que vous êtes dans la montagne et donc vous allez faire paître vos troupeaux, etc. Donc il faut quand même des conditions un petit peu plus concrètes, un peu plus administratives. négative, et c'est là où on tombe sur le problème, c'est que c'est très difficile de dire, par exemple, on va aider les agriculteurs pour qu'ils entretiennent les haies. C'est un exemple qu'on a donné récemment, voilà. Mais le problème après, c'est qu'est-ce que maintenant. Ça veut dire entretenir les haies, c'est forcément...
Eh bien, l'observatoire de la haie, et là voilà. On a un observatoire.
Et donc, ça aboutit à des réglementations compliquées que les agriculteurs ont du mal à respecter, que les contrôleurs de l'administration ont du mal à contrôler, mais c'est inévitable.
J'ai un auditeur qui s'appelle Les Amis Européens, au pluriel. Il écrit, pour faire accepter le green, il faut juste l'attacher à une baisse de taxes, d'impôts et de charges. Je ne suis pas certain que ce soit la direction que nous allons prendre. Avançons. Il reste quoi ? Un peu plus de 8 minutes. On parlait d'agriculture, Jérôme Dédéian, et justement, ça nous ramène à l'histoire du libre-échange. Ça a été l'un des éléments de crispation, notamment le Mercosur, qui, je le rappelle, est quand même en discussion depuis plus de 20 ans. Et qui n'a donc toujours pas été ratifié, même s'il y a eu une signature, mais pas une ratification en 2009. Là, c'est le Sénat qui se prononce sur le CETA avec le Canada. C'est jeudi prochain. En fait, cet accord avec le Canada, il est en vigueur sur le terrain commercial depuis 2017. Il faut juste aller plus loin en termes de ratification pour y inclure les protections des investissements des entreprises et l'instauration d'une cour d'arbitrage spéciale propre à cet accord de libre-échange. Ce qui veut dire que l'essentiel du jeu, la partie commerciale, est déjà très largement installée. Le libre-échange est-il l'ennemi?
Alors, moi je voudrais dire que le libre-échange, pour moi, il n'existe pas. Je vais la faire courte. Il n'existe pas. Il n'y a que, entre zones, entre pays, etc., des accords qui permettent d'essayer de mettre de la liberté, de la fluidité, d'augmenter les volumes ou de simplifier les échanges commerciaux. Quand les parties y trouvent un intérêt. Oui. Revenons à la base.
D'accord. Ce sont des accords bilatéraux.
Un accord commercial, c'est quoi ? C'est deux zones, deux pays, vous mettez ça comme vous voulez, qui décident de commencer à discuter parce qu'elles pensent qu'elles peuvent parvenir à un accord qui sera dans l'intérêt des parties de l'augmentation des échanges entre les deux pays et donc de la richesse créée par chacun des deux, chacun un accord gagnant-gagnant. Si elles y arrivent, c'est-à-dire qu'elles arrivent à trouver un accord que les parties trouvent équilibré et dont elles pensent que ça va donner des avantages aux deux, à ce moment-là, il est signé. Si elles n'y arrivent pas, c'est ce qui se passe avec le Mercosur depuis toutes ces années de discussion. Pour l'instant, il n'est pas encore équilibré, on n'a pas encore réussi à le mettre en œuvre dans des conditions satisfaisantes. Parlons de l'accord CETA avec le Canada. Cet accord, il a été signé il y a 7 ans. Donc, il est appliqué de façon temporaire depuis 7 ans. D'accord ?
Il a, fonctionne comme s'il était ratifié intégralement. C'est voilà. Bon, c'est assez hypocrite.
Il a eu indéniablement, au global, des effets, des effets positifs sur les échanges commerciaux entre le Canada et un certain nombre de pays d'Europe, dont la France. On parle de grosso modo d'un accroissement de l'ordre de 50% des échanges entre les pays d'Europe et le Canada. Pour la France, c'est un tiers, donc ça veut dire que c'est bien. Et on a plutôt, sur ces années, il y a des années de déficit, des années d'excédent commercial positif, on a plutôt, depuis 7 ans, un excédent commercial cumulé positif avec le Canada. Donc la France a tiré favorablement son épingle du jeu, mais moins que ses partenaires européens. Mais cet accord, il a été conclu parce qu'il comprenait des concessions faites par les uns et par les autres.
Forcément.
Dans un intérêt supérieur.
Voilà.
Intérêt supérieur.
Il faut accepter qu'il y ait des perdants et des gagnants. Voilà.
Et il se trouve que vous avez parfois, finalement, des enjeux politiques, de politique intérieure, qui se télescopent avec ce genre de situation. Et que pour des raisons liées à un nombre très limité de sujets, alors qu'on est gagnant sur un paquet d'autres sujets, des sujets qu'on a peut-être sacrifiés dans ces accords, ceux sur lesquels on a fait le plus de concessions, se rappellent à nous pour des raisons de politique intérieure. C'est pour ça qu'il y a cet effet effervescence autour du passage au Sénat de l'examen de ce traité.
Gilles, bravo. Vous avez commencé à évoquer la question justement du libre-échange et des accords de libre-échange. Vous faites partie de ceux qui considèrent qu'il faut les combattre ou il faut en faire la promotion. Parce que c'est vrai que quand on regarde Mercosur, moi je peux vous faire la liste des gagnants. Si vous faites du vin ou du fromage français, jackpot. C'est sûr que si vous êtes un éleveur, c'est beaucoup, beaucoup plus compliqué.
Oui, ben là, ça fait partie des grandes erreurs démocratiques. C'est que,
quelle erreur, pardon ?
C'est que dans tout le discours politique, on nous parle toujours que des gagnants. Alors que je voudrais rappeler ce résultat d'un monsieur qui s'appelle Danny Roderick, lorsqu'il a fait le bilan de l'ALENA, le plus grand, historiquement le plus important accord de libre-échange donc nord-américain entre le Mexique, les États-Unis et le Canada. Mm-hmm. Lorsque ça a été les 25 ans de l'ALENA, Danny Roderick a passé en revue l'ensemble des études qui ont été produites à ce moment-là, nous a rappelé cette vérité basique, c'est que les accords de libre-échange ne créent pas d'emplois. Ils ne sont pas faits pour ça, ils ne créent pas d'emplois. Au mieux, ce que vous avez, c'est des gains de productivité, puisque le développement du commerce, conformément à ce que nous expliquait déjà Ricardo, conduit à la spécialisation, qui conduit aux gains de productivité, et donc éventuellement à des gains de bien-être. Donc la première chose, et toutes les études le montrent, les accords de libre-échange ne créent pas d'emplois, parce que vous avez d'un côté des créations, de l'autre côté des destructions, et en gros, ça s'équilibre. Je dis pas que c'est pas bien, je dis juste que dire on va créer des emplois avec les accords de libre-échange, c'est juste un énorme mensonge, tout économiste sincère le sait, mais malheureusement...
C'est rarement ce qu'on met en avant sur les
accords de libre-échange. Il n'y en a pas beaucoup. Il me semble que si.
L'idée, c'est quand même plutôt de créer des échanges commerciaux, et effectivement, avec des conditions au global, gagnante-gagnante des deux côtés.
L'Union européenne est un immense accord de libre-échange qu'on nous a vendu depuis 30 ans au nom de la croissance et de l'emploi. La deuxième chose que je veux dire, c'est que évidemment,
là, vous me démontez en fait le libre-échange dans votre démonstration.
Évidemment, le développement du commerce international est complètement insoutenable sur le plan énergétique, et c'est la même chose. Je voudrais revenir sur ce qui a été dit sur l'agriculture. C'est vrai que l'agriculture intensive française est exportatrice, mais sa contribution au PIB est faussée parce que on prend pas en compte les subventions, on prend pas en compte les cancers, les pesticides, etc. C'est-à-dire que on voit bien aujourd'hui, toute personne qui a des yeux pour voir nous voit que notre système économique, pourquoi on a tous des déficits sociaux, on a parlé, c'est extraordinaire, on parle de la sécu, de la santé, mais on ne parle jamais de la santé des gens. Évidemment, la seule façon de diminuer les dépenses de santé, attention scoop, c'est que les gens ne soient pas malades. Or, des grands secteurs de notre activité, à commencer par l'agriculture industrielle, rendent les gens malades, à plein de titres. C'est archi-documenté. Et on ne sort pas de ce truc-là. Et de la même façon...
Et c'est la responsabilité du libre-échange.
Le commerce international repose sur la combustion de fossiles qui nous rendent malades et qui détruisent, c'est un détail, la vie sur Terre. Donc, quand on arrive à continuer cette logique-là, bon. Je termine juste parce que je suis en forme.
Oui, en forme.
La blague sur l'Union européenne qui est démocratique, il faut quand même les gens sachent qu'il y a eu d'énormes protestations contre la signature du CETA en 2017, mené par Paul Magnette, vous avez vu des dizaines de milliers de gens.
Mais il y a toujours de la résistance aux accords de libre-échange.
Mais toujours. Je tiens à signaler que cet accord est en vigueur. Il s'applique alors qu'il n'a pas été ratifié par nos démocraties représentatives.
Il s'applique sur son volet commercial.
Actuellement, il y a un tout petit peu des élections au Parlement européen. Il y a des gens qui, de façon très rigolote, avec beaucoup d'humour, nous disent qu'ils défendent l'Union européenne parce qu'elle est démocratique. Bon, l'Union européenne n'est pas démocratique du tout. Elle ne prétend pas l'être. Elle n'est même pas démocratique de façon représentative. Vous, comme moi, on n'a aucune façon d'influer la composition de la Commission européenne. La Commission européenne n'est pas responsable devant le Parlement. Et donc, vous avez une compétence exclusive en matière commerciale. Et donc, vous avez des lois qui s'appliquent à nous tous, qui ont été ratifiées par personne, à commencer par ces accords de libre-échange, comme le CETA.
D'accord. Vous êtes anti-libre-échange.
En fait, sur le CETA...
J'aime bien la démocratie.
Je voudrais juste revenir.
On a une minute 20 et François, c'est pas...
34% déficit... excédent commercial cumulé avec le Canada depuis 7 ans positif. Ouais. Et augmentation des échanges de la France avec le Canada de 34%. Moi, je considère que c'est un succès au global. D'accord. Le seul truc, c'est comme c'est un accord, on a fait des concessions. Donc, il y a des secteurs d'activité chez nous qu'on a fragilisés. On peut parler de l'élevage, par exemple. Et ça, quand on fait un accord de libre-échange dans un intérêt global supérieur, ça devient la responsabilité nationale de s'occuper, de compenser ou de travailler sur le plan stratégique qui permet d'éviter que ceux sur lesquels on a fait des concessions par rapport à ceux sur lesquels on a obtenu des choses soient moins malheureux qu'avant.
François,
ça n'a pas été le cas.
Mot de la fin, si vous en avez un sur le libre-échange, et puis on parlera pas de la fast fashion.
La question du libre-échange, c'est une question de grand pays. Un petit pays, sauf à revenir à une économie de subsistance médiévale, un petit pays n'a pas le choix, se pose pas ce genre de questions, parce qu'il peut pas tout faire. Et donc il est obligé de s'ouvrir à l'international, de se spécialiser, et donc il a intérêt au libre-échange. Et donc je pense que globalement, moi je suis favorable au libre-échange, non pas parce que ça augmente l'emploi, je suis tout à fait d'accord, ça n'a aucun effet sur l'emploi. En revanche, je pense que ça a un effet sur la productivité. Il y a une façon plus simple de traduire productivité, c'est pouvoir d'achat. C'est la même chose, en fait. Donc, ça permet d'améliorer le pouvoir d'achat. Alors, après, c'est vrai qu'il y a des perdants et des gagnants. Donc, c'est vrai que toute la question politique qui doit être traitée, qui est très difficile à traiter, c'est comment compenser les perdants du libre-échange. C'est pas simple, mais je pense qu'on devrait pouvoir y arriver quand même. Donc, je suis favorable au libre-échange parce que ça permet globalement d'améliorer le pouvoir d'achat.
Merci. François Eckhall, Jérôme Dédéian, Gilles Raveau d'avoir débuté cette semaine avec moi. On a presque tout traité. On se retrouve demain à 9h.
Nicolas Dose et les experts sur BFM Business.